Ce qu'on voit en premier, c'est sa chevelure flamboyante, blonde vénitienne. Elle a une chemise d'homme noire, un foulard imprimé autour du cou, des yeux bleus, elle sourit, elle a les jambes croisées. Je suis Lauriane Meulière et je reçois Valérie Espinas, qui est micronutritionniste. Bienvenue dans Émotion de peau, un podcast MyBlend. Je viens de te décrire à l'instant, c'est toujours un passage qui peut être un petit peu gênant. Qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu te regardes dans un miroir, quand tu t'auscultes, que tu te consultes? Est-ce que tu peux me décrire ta peau?
Je ne vais pas forcément regarder ma peau en premier. Je regarde souvent mes cheveux. Je ne sais pas pourquoi, je me réveille. Il faut que je m'occupe de mes cheveux, ou je les brosse, ou je les attache. Et je regarde comment ils sont le matin, parce que est-ce que je vais les laver, est-ce que je ne vais pas les laver, voilà. Mes cheveux sont très importants, voilà. Et ma peau, quand je regarde ma peau, ben, je vais regarder... Est-ce qu'elle est aussi lumineuse que moi le matin? Est-ce qu'elle est bien réveillée comme moi ou pas? Est-ce qu'il faut que je la réveille? Est-ce qu'il ne faut pas que je la réveille? C'est un peu ça que je regarde quand je regarde ma peau.
Dans ce podcast, on va parler d'émotions et de peau. Ce sont deux sujets qui sont hyper sensibles, assez intimes aussi et très liés. Aujourd'hui, c'est moi qui te reçois pour te faire parler de toi, alors que d'habitude, c'est plutôt toi qui es à ma place, puisque tu sondes les corps et les émotions de tes patients. Tu es micronutritionniste. Ça fait quel effet d'inverser les rôles, de laisser quelqu'un se glisser sous ta peau, plutôt que d'analyser pour une fois celle des autres?
Alors, c'est vrai que ce jeu où c'est toi qui me poses les questions est quelque chose de très particulier pour moi parce que de par ma pratique, je n'ai absolument pas l'habitude de me livrer. C'est une pratique que je ne fais absolument pas ou très peu de parler de moi, de répondre à des questions.
Ça vient d'où cette pudeur?
Je suis auvergnate. C'est vraiment imprégné dans les gènes de chacun. J'ai encore ma maison de famille qui me vient de mes arrière-grands-parents en Auvergne. Donc, j'ai été élevée pour partie là-bas. C'est vraiment culturel de peu parler, de très peu parler. Et pour autant, de se comprendre. C'est ça qui est assez amusant. Mais en fait, on ressent si l'autre a besoin de parler. Quand tu me demandes des souvenirs de mon enfance, des odeurs de mon enfance, elles sont toutes reliées à l'Auvergne, c'est-à-dire les prés coupés, l'herbe coupée, l'odeur des sapins, l'odeur des champignons l'automne, les bêtes, les vaches, les animaux. Parce que pour nos balades en Auvergne, mon père nous arrêtait régulièrement et nous disait « Est-ce que vous sentez ou est-ce que vous entendez cet oiseau qui vient de s'envoler? Est-ce que vous entendez le chant de cet oiseau? C'est à l'oiseau. Tiens, sang, il doit y avoir des champignons par ici, on va aller par là. » C'est ça, mon enfance. Aujourd'hui, mon père a 85 ans. Il y a 3-4 ans, un jour, on parlait de la vie, on était tous les deux au bord de la cheminée. Il m'a rappelé ce souvenir qui m'a mis presque les larmes aux yeux, c'est-à-dire qu'il se souvenait encore du jour où il avait quitté sa maman et l'odeur du manteau qu'elle portait. Et il avait quitté sa maman sans jamais la revoir. Il avait moins de 4 ans. Cet homme âgé qui te rappelle ce souvenir ancré toute sa vie, quand elle l'avait serré dans les bras, elle a mis son nez dans la fourrure du manteau et s'en souvenait encore à l'âge qu'il a. Et j'ai trouvé ça tellement émouvant. Et il m'a fait prendre conscience de la mémoire et des odeurs.
Et on t'a transmis aussi un savoir autour des plantes. Au-delà de la faune, il y avait aussi la flore.
C'est une très belle histoire qui, je pense, a orienté mon destin professionnel, puisqu'une amie de mon arrière-grand-mère, qui était une dame âgée quand j'étais enfant et que j'ai connue jusqu'à l'âge de 10 ans, était la personne qui soignait le village. Alors, elle était rien, elle n'avait aucun diplôme et elle avait une culture des plantes qu'elle allait cueillir, qu'elle faisait sécher dans son hangar, dont elle faisait des pots. Mais c'était surtout l'art qu'elle avait de cueillir la plante et de la respecter. C'est-à-dire, elle ne coupait pas la plante, elle la cueillait. Elle cueillait que la fleur. Si c'était la fleur qui était intéressante, elle prenait les feuilles. Avec ses mains d'une personne âgée, avec une délicatesse extrême qui engageait au respect. Et j'adorais aller marcher avec elle et cueillir les plantes et la voir mettre dans ses bocaux. Pour moi, c'était un palais miraculeux. Et après, j'ai décidé de faire pharmacie, j'ai décidé de faire phytothérapie, j'ai décidé de faire micronutrition. Et je pense qu'elle a complètement orienté mon destin professionnel.
Qu'est-ce qui se passait en termes d'émotion quand toi, alors soit quand tu étais plus jeune ou même encore aujourd'hui, tu vas dans la nature et justement, tu touches avec tes mains cette nature ou des plantes?
C'est certainement parce que j'ai été élevée à la campagne. Mais quand je touche une feuille, quand je touche une fleur, j'ai l'impression qu'elle me pénètre. C'est-à-dire qu'elle ne reste pas à la surface de ma peau, mais qu'elle rentre. C'est une sensation très particulière. Toucher un arbre, pour moi, c'est... j'ai l'impression que je sens la sève qui bouge à l'intérieur. Je ne le fais pas pour me remplir d'énergie, mais quand je le fais, je sens. Voilà, ça rentre en moi.
Ce rapport à la nature, et notamment les femmes de ta famille qui cultivaient comme ça des plantes, ou en tout cas qui avaient la connaissance des plantes, c'est ce qui t'a poussé vers des études de pharmacie. À quel moment t'as eu ce déclic en te disant « bon, ben là, je vais faire pharma ».
C'était évident. Je faisais pharmacie parce que pour moi, j'allais étudier les plantes. Quand on m'a dit « qu'est-ce que tu vas faire ?», j'ai pas réfléchi. J'ai pas toujours eu l'impression d'avoir une grande confiance en moi, mais cette intuition a toujours été là. Ces études de pharmacie, c'est toujours des fondations qui seront là. Mais c'est vrai que quand je les ai eues finies, il manquait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il a fallu que je continue, que j'aille dans une voie professionnelle qui allait plus dans le sens de la naturalité, de la nature et des plantes. Parce que justement, il y avait une partie sur les plantes et la phyto qui était très importante. Mais dans la manière de pratiquer, c'était avant tout les médications, les médicaments. Donc c'est en ce sens-là où j'ai eu besoin de faire des spécialisations pour pouvoir travailler totalement avec les plantes, avec la naturalité, avec... de manière naturelle.
Comment est-ce que tu te sentais dans ta peau pendant tes études ?
Adolescente, j'étais plus dans la nature. Après, il a fallu quitter, aller en ville et faire mes études. Et c'est vrai que quand tu prends conscience que tu es une femme, c'est-à-dire que tu quittes l'enfance, alors moi, c'était plus autour de 20 ans qu'avant. On regarde son corps. Ma peau du visage ne me plaisait pas. Je vais avoir deux boutons sur la joue et donc ça ne devait pas me plaire. Ça m'a donné l'impulsion de dire, il faut que je m'occupe de moi. Si mon corps ne me plaît pas, comment je vais m'en occuper ? Je me suis mise à faire du sport que je n'avais pas vraiment fait dans mon enfance, je n'étais pas très sportive. Je vais m'occuper de ma peau, je suis allée faire des soins, du visage, j'ai commencé à regarder les cosmétiques que j'allais mettre, ceux qui me convenaient, ceux qui ne me convenaient pas.
Quel est le rapport que tu entretiens avec ton apparence aujourd'hui ?
Je suis une femme qui avance en âge, comme toutes les femmes. C'est troublant d'ailleurs, parce que je commence à prendre de la maturité, comme on dit. Et je fais très attention, mais je dirais autant qu'avant. Peut-être que j'ai changé mes routines parce que ma peau le nécessite, mais je suis beaucoup plus indulgente avec moi-même. Quand j'étais jeune, quand on est jeune, en tout cas quand je l'étais, j'étais très dure avec moi. Et je le vois au travers de ma fille aujourd'hui, qui est une jeune fille, et je me dis qu'elle est dure avec elle. Et je pense que je l'étais. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus indulgente. Alors si j'ai quelques rides, je vais faire ce qu'il faut. Mais ça ne me prend pas la tête. Je suis devenue beaucoup plus indulgente avec moi-même.
Quels sont les rituels que tu as aujourd'hui pour prendre justement soin de toi, qu'il s'agisse de ta peau, mais aussi de ta santé mentale, de ton bien-être ?
Pour prendre soin de ma peau, j'ai vraiment des routines. Je ne me coucherai jamais sans me nettoyer le visage. Ça, c'est ma mère qui me l'a enseigné. Je peux me coucher à 4 heures du matin après une soirée. Je ne penserai même pas à me coucher en n'ayant pas le visage nettoyé ou démaquillé ou autre. Donc, je prends grand soin des nettoyages. Je fais très attention. Et puis, j'ai une peau sèche, alors il faut que je l'hydrate. Et je ne peux pas être sans crème. Donc, je vais mettre une crème. Et puis maintenant, je mets un sérum, je mets un contour de l'œil. Je fais mon masque une fois par semaine. Je fais mon masque sur les cheveux une fois par semaine. Je suis quand même très, très, très sensible aux senteurs de mes produits. Parce que quand j'ouvre mon pot le matin, ça participe à mon réveil, à mon bien-être, de le sentir, voilà. En me couchant, j'adore sentir des huiles essentielles. J'ai des flacons d'huile essentielle, je vais les sentir. Alors, je sens la lavande parce que c'est commun, mais voilà, je sens.
Aujourd'hui, tu es micronutritionniste. Est-ce que tu peux définir ce en quoi ça consiste ?
La micronutrition, c'est toutes les supplémentations en vitamines, phytothérapie, acides gras, antioxydants, à but thérapeutique. C'est soigner de manière naturelle. Au départ, beaucoup de patients venaient uniquement pour perdre du poids, parce que nutrition égale poids. Et fort heureusement, ça a évolué et on sait aujourd'hui que c'est de la santé. Donc moi, je me suis spécialisée sur les intolérances alimentaires. Donc j'ai majoritairement des patients qui viennent me voir pour des troubles digestifs. Mais les intolérances alimentaires, ça va beaucoup plus loin. Et depuis quelques années, j'ai vraiment en grande progression des patients qui me viennent me voir pour des problèmes de peau, des problèmes cutanés, de la rosacée, de l'eczéma, du psoriasis, parce qu'ils ont pris conscience, par toutes les infos qu'ils ont, que la peau, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur, c'est le reflet de ma santé, c'est le reflet de comment je mange, c'est le reflet de mon intestin.
Comment se déroule un rendez-vous en consultation ?
Alors, un rendez-vous en consultation avec moi, c'est un inventaire de questions qui va un peu dans tous les sens pour connaître un petit peu l'historique, justement, le passé des personnes qui a beaucoup d'importance, leur génétique qui a énormément d'importance, leur vie d'avant de venir me voir, pour essayer toujours de trouver la cause, c'est-à-dire la face cachée de l'iceberg. Il a des fois des causes qui sont bien cachées, donc moi, l'art, c'est d'aller les chercher. Alors, quand on fait le métier que je fais, on est toujours psychologue et on doit l'être et on le devient en tout cas. Ce que je livre comme clé à mes patients, c'est des fois des informations, des pistes où peut-être il serait bon d'aller pour améliorer leur état général. Mais je considère, et j'ai vraiment de grandes convictions, et ce n'est pas moi, c'est les scientifiques qui nous l'ont apporté, que nous ne sommes que vibrations. Nous sommes des vibrations. Nos cellules vibrent. Quand elles vibrent d'une certaine manière, on est en bonne santé. Et l'état vibratoire peut avoir beaucoup d'incidence sur notre état de santé. Et il y a beaucoup, beaucoup de patients qui j'engage à reprendre leur activité musicale ou leur chant. J'ai des anecdotes très drôles où j'ai lutté avec des patients pour qu'ils repratiquent. Et un homme en particulier, j'ai lutté peut-être pendant 6 mois. Et je ne l'ai pas revu. Il est revenu peut-être 2 ans après. Et il avait eu un bébé entre-temps, ils avaient eu un bébé avec sa femme, et il jouait de la guitare, et il avait complètement arrêté, et je lui disais, reprenez la guitare, vous verrez l'impact que ça aura sur votre santé, reprenez, j'avais lutté. Et en fait, pour faire endormir son petit garçon, il s'était mis à rejouer de la guitare, et était venu me voir pour me remercier, pour me dire, ça m'a changé, ça y est, j'ai atteint ce que vous me disiez. Beaucoup de choses ont changé. Il avait des problèmes digestifs et son émotionnel était grandement responsable et s'était remis à jouer de la guitare. Et ça, j'étais très heureuse. C'était son petit garçon qui avait fait que. Et j'engage très, très souvent à faire une pratique de chant, d'instrument pour ce côté vibratoire. Mais si c'est une autre activité artistique, parce que nos vibrations sont différentes quand on est vraiment dans ces actes de méditation et de création. J'engage vraiment le plus souvent que je peux, je le fais.
Est-ce que dans ta pratique de ton métier, tu as un rapport au toucher qui est particulier parce que tu es en consultation avec des patients. J'imagine que parfois, voilà, tu les touches, tu les observes, tu les regardes beaucoup, ils te parlent aussi, donc tu pénètres un peu sous leur peau pour savoir ce qui s'y cache. Quel est ce rapport comme ça que tu as au toucher, à la sensorialité, encore une fois, à travers ton métier ?
Dans mon métier, dans l'absolu, je ne suis pas obligée de toucher mes patients. Mais moi, j'ai un rapport au toucher qui est très important. Et quand je les salue, quand ils s'en vont ou quand ils arrivent, toujours je les touche. Ou j'ai salué, je leur ai serré la main et je leur ai tenu le bras. Ou je leur touche l'épaule, ou je les touche. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de les toucher, peut-être dans un geste de réconfort, parce que ce sont des patients. Ce sont des personnes qui sont souvent en souffrance, des fois en grande souffrance, et c'est un geste qui se veut certainement apaisant pour eux, réconfortant, et je le fais quasiment toujours. Et c'est vrai qu'il arrive qu'il y ait un ressenti sur leur énergie que je ressente.
Quand on est comme ça dans une approche holistique de la santé, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être soi-même une éponge à émotions ?
On ne peut pas ne pas être une éponge. C'est impossible. Ou on fait ce métier avec le cœur, avec la volonté d'aider l'autre. Et quand l'autre en face, qui est votre patient, vous livre son histoire de vie, son histoire de maladie, c'est impossible de ne pas être une éponge. Et il m'est arrivé de verser des larmes en consultation, évidemment. Et, mais c'est la vie, c'est ma vie, et j'en tire que du bénéfice. Donc, je suis une éponge, je suis totalement une éponge par rapport à mes patients, et il peut m'arriver de verser une larme, ouais.
Tu sens les gens, tu ressens les gens, tu absorbes les gens. Est-ce que c'est un petit peu la même chose avec ton rapport à la maternité ?
Moi, quand je pense à mes enfants qui ont plus que 20 ans aujourd'hui, je pense à leur donner sens à chaque fois et au moment où je les ai reçus la première fois sur mon corps et que je les ai sentis, vraiment. Et mes enfants, quand je les embrasse encore, je les sens. Je suis un peu une mère louve, je ne sais pas comment on peut dire, une mère animale. Je sens mes enfants à tel point que quand ils ne vont pas bien, je le sens tout de suite. Il n'y a rien qui change et même leur visage peut ne pas changer, mais je sens quand ils ne vont pas bien. Et d'ailleurs, ça les déroute énormément. Je leur dis, mais c'est parce que je suis votre mère. Ils disent, mais comment tu peux savoir ? Je dis, je le sais. Mais parce que je le sens. J'ai eu deux naissances différentes, mais mon premier enfant, qui est mon fils, quand il a été posé sur ma peau, sa chaleur m'a envahie. Ça, je m'en souviens comme si c'était il y a une heure. Je me souviens de quel côté on me l'a posé et sa chaleur m'a envahie. Avant que je le sente, c'est sa chaleur qui m'a envahie. Ma fille, c'était une naissance différente. Quand on me l'a mise, elle était déjà habillée parce que c'était une naissance un peu particulière. Ça ne se passe pas comme on voudrait. Et je l'ai embrassée comme si j'allais manger sa tête. Et là, j'ai senti son odeur. En plus, elle était arrivée à plus que terme. Elle avait 2 centimètres de cheveux sur la tête. Je me souviens de son odeur. Mon fils, je me souviens de sa chaleur. Ma fille, je me souviens de son odeur. Voilà.
C'est quelque chose de très sensoriel. Une fois de plus, c'était vraiment ce toucher et cet odorat qui se manifeste dans ta relation aux autres et au monde. Comment est-ce que tu es entrée dans la peau de toi, maman ?
C'est mes enfants qui m'ont fait rentrer dans la peau d'une maman. Vraiment, je crois que c'est ça. Mon fils, j'ai senti sa chaleur, c'est-à-dire qu'il est rentré dans mon sang. Et après, tu es maman. Voilà, c'est... Tu n'as plus à réfléchir. J'avais plein d'angoisse, comme beaucoup de jeunes femmes quand j'étais enceinte. Est-ce que je me réveillerai quand il va se réveiller la nuit alors que j'ai un sommeil de plomb ? Est-ce que je vais savoir faire ci ? Est-ce que je vais savoir faire ça ? On te pose ton enfant sur toi, il rentre dans ton sang, tu es maman, tu es sa maman à vie. Ça m'a fondamentalement changé de devenir maman. Je suis devenue possessive, responsable, attentive, qui n'était peut-être pas le cas avant. Je n'avais pas cette notion de la responsabilité. Donc ça m'a radicalement changé dans ma manière de vivre, dans ma manière de penser. Puisque inconsciemment, je pense toujours à mes enfants, même aujourd'hui, qui sont grands.
Pourquoi est-ce que tu as décidé de quitter la campagne pour t'installer à Paris ?
Vraiment, l'amour m'a conduit à changer de vie sans me poser de questions. J'habite à la campagne, je dois faire mes études, il faut que j'aille en ville, donc je vais déjà dans une ville de province. Et puis après, l'homme que j'aime vient à Paris, alors je viens à Paris. Voilà, c'est le cours de ma vie qui a mené mon cours professionnel aussi. Ma vie privée a beaucoup d'importance. L'homme avec qui je vis aujourd'hui, je l'ai rencontré un été chez des amis. Et avant de tomber amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de son odeur. Mais véritablement, et je ne savais pas que je tomberais amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de son odeur. C'était une odeur d'homme, de mon homme maintenant, parce qu'il avait pas, c'était pas un parfum, c'était pas une odeur d'un parfum que j'aimais, c'était son odeur, et qui était d'une masculinité extrêmement forte, extrêmement sensuelle, et que j'ai senti tout de suite en m'approchant de lui, et sans penser que je tomberais amoureuse de lui, évidemment. En fait, moi, je crois que j'ai un lien très fort quand je te parle avec les odeurs. C'est-à-dire que quand il rentre de voyage, je ressens la même odeur que quand je l'ai senti la première fois.
Il y a une question que je pose en chaque fin d'épisode et que je vais te poser à toi aussi. C'est aujourd'hui, est-ce que tu te sens bien dans ta peau ?
Aujourd'hui, je me sens très bien dans ma peau. Véritablement, même en gagnant en maturité, je me sens très bien dans ma peau parce que je suis apaisée avec mes enfants, je suis apaisée avec mon amour, je suis apaisée professionnellement et j'estime que j'ai beaucoup de chance.
Je suis Lauriane Meulière et j'ai reçu Valérie Espinas dans Émotion de peau. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à Émotion de peau et nous laisser des commentaires et des étoiles. Émotion de peau est un podcast de MyBlend, produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média, en collaboration avec Plume Rédaction. Karen Loyer a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Marine Kéméré. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis à très vite.